cours de philosophie et de politique chrétienne par le père Philippe à Rimont, le 8 février 1989.
Rapport politique et éthique. La politique n'est-elle pas une partie de la philosophie subalternée à l'éthique? Comme la cause univoque, cause du devenir, liée aux poses, au comment. C'est par rapport à la cause équivoque, cause de la spécification, lié à la finalité dans le développement de la personne humaine. Alors, je reprends pour que nous comprenions bien, la politique n'est-elle pas une partie de la philosophie subalternée à l'éthique? Subalternée à l'éthique. Tout dépend si l'aspect communautaire est essentiel à l'homme, n'est pas essentiel. Parce que subalterner la subalternation n'est pas commun du tout à bien préciser. La subalternation, c'est une application des principes propres d'une science supérieure à une matière inférieure. Alors c'est pas ça l'éthique et la politique. Ce n'est pas les principes d'éthique que j'applique à la politique. Je sais très bien qu'on va dire qu'il n'y a pas de principe propre en politique. C'est vrai, d'une certaine manière. Et c'est justement ça qui est si délicat. Quand on dit que c'est uniquement un pos, c'est vrai que le bien commun n'est pas au sens absolu un principe nouveau, propre, et c'est pourtant un nouveau principe. C'est là que la subalternation ne me va pas très bien. Ce n'est pas de bien commun, d'accord. C'est peut-être ce qui existe entre les rapports de la famille chrétienne et de l'Église. Vous voyez, là il y a une subalternation. L'Église domestique. C'est les principes de l'Église qui sont appliqués à la famille. Donc, une théologie ou une éthique chrétienne, familiale, dépend de l'éthique de l'Église. La théologie de la famille dépend de la théologie de l'Église. Là, je dirais que c'est subalterné. Mais pour la politique et l'éthique, les rapports sont plus délicats, plus difficiles. N'essayez pas trop de les voir maintenant. Je crois qu'on les verra plus au terme dans une position critique. De fait, la politique existe. De facto, on peut dire Aristote en a fait, Platon en a fait, et on voit que les rapports entre Aristote et Platon sont très différents quand je regarde politique et éthique. Pour Platon, l'éthique est subalternée à la politique. Pour Aristote, je ne dirais pas que la politique est subalternée à l'éthique. Je ne crois pas qu'on puisse le dire. Posez-le comme question, c'est intéressant, vous dites toujours de creuser les problèmes. Je dirais plutôt qu'il y a l'éthique personnelle, et puis il y a une éthique communautaire, familiale, et c'est une communauté parfaite qui est la politique, et une communauté internationale comme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a une éthique, il y a une politique internationale. Alors, je crois que le bien commun donne une structure spéciale à la communauté. Et parce que le bien commun donne une structure spéciale à la communauté, il n'y a pas subalternation. Je ne peux pas prendre des principes éthiques et les appliquer à la politique. Je vous ai toujours dit qu'au point de vue politique, intervenait l'aspect de l'efficacité artistique et de la production. Or, ce n'est pas seulement la matière. Ça fait partie essentielle du bien commun. Le bien commun implique un bien original. Et un bien qui est produit par les hommes politiques, par les citoyens. Donc il y a un fait chéré qui intervient d'un point de vue politique. Ce n'est pas uniquement de la durée. Si la politique était subalternée, il suffirait d'appliquer l'éthique. Alors c'est pas ça du tout. L'éthique est nécessaire. Point de vue politique, c'est sûr. Mais il y a quelque chose de sui generis. Très difficile à préciser. Ça, je suis d'accord. Et c'est pour ça, parce que c'est très difficile, vous avez bien compris, je n'ai pas pris le bien commun. J'ai pris la vertu. Je contourne la difficulté. Dès qu'on est devant une grosse difficulté, il faut la contourner. Autrement, on va se casser les dents. Peine. Le dentiste politique ne sera pas là pour nous aider. Et je crois qu'il faut prendre un procédé stratégique, la prudence. Je crois. Mais si le bien commun était très clair, on pourrait tout de suite attaquer par le bien commun, comme on fait d'habitude, par les principes. Le bien commun est un pouce. Une réalisation concrète. Comme une œuvre. C'est une œuvre faite à plusieurs. Et c'est une œuvre bonne pour la communauté. C'est une œuvre qui permet à la communauté d'arriver. C'est ça le bien commun. C'est complexe. Le bien commun de la famille n'est pas celui de la communauté de travailleurs, n'est pas celui de la politique. Donc vous avez trois biens communs différents que la politique doit harmoniser. Les biens communs des chemins de fer n'est pas le même que le bien commun des agriculteurs. C'est sûr. Il faut faire attention de ne pas les mêler. C'est très complexe, le bien commun. C'est pas simple du tout. C'est pour ça que je crois qu'il vaut mieux prendre par le point de vue politique, par le point de vue de la prudence. C'est ce que nous avions fait. Alors, essayons d'entrer dans la prudence. Quitte à revenir à cette question après. Mais pour élucider bien cette question, il faut comprendre parfaitement quel est le bien ultime de l'homme personnel et le bien commun. Mon bien, ma fin personnelle, c'est le bonheur. Et mon bien commun, c'est le bien dans lequel je fais partie d'un pays, point de vue politique. Et vous voyez, aujourd'hui, il faut la politique européenne. Alors, est-ce que ça ajoute quelque chose? Est-ce que la politique européenne exige une nouvelle philosophie par rapport à la politique d'un pays et la politique internationale? Mais comme c'est complexe. Bon, alors, continuons la réflexion sur la prudence. Je vous posais la question, hein, si c'est bien exact, la prudence politique est-elle différente de la prudence personnelle? Question très délicate, Aristote le reconnaît. Aristote reconnaît que si on est dans un gouvernement parfait, il doit y avoir coïncidence. Quand tu es dans un gouvernement qui n'est pas parfait, c'est rare qu'un gouvernement est parfait. Je sais pas si ça existait. Peut-être, peut-être. Grâce à un point de vue chrétien. Mais en Grèce, sûrement pas. L'idée qu'un gouvernement se laïcise, sûrement pas. Il est imparfait. Il est même très imparfait. Un gouvernement soviétique n'est sûrement pas parfait. Un gouvernement qui est socialiste n'est sûrement pas parfait. Un gouvernement conservateur de droite n'est sûrement pas parfait. Parce que ce sont des gouvernements de parti. Donc c'est des gouvernements essentiellement imparfaits. De parti. La droite et la gauche divisent l'homme en deux. Ils ne sont pas deux jumeaux. Ça divise l'homme en deux. Alors tu sais, ce sera le centre. Mais non, parce que le centre se définit en fonction de la droite et de la gauche. Donc, il est lui-même imparfait. C'est extraordinaire de voir ça. Vous savez, le déraillement, il est vieux. Alors, essayons de comprendre que dans un gouvernement qui n'est pas parfait, il y a quelque chose de nouveau dans la prudence politique. C'est pas la gouvernement, c'est pas la prudence personnelle. Il y a quelque chose de particulier. Alors, vous allez me dire une application plus qu'une application. Il y a l'intelligence du bien de la communauté. Il y a l'intelligence de l'efficacité du rendement de tous les citoyens pour essayer de voir si on peut progresser. Un gouvernement parfait devrait dépasser une crise économique. Parce que la crise économique, elle n'est pas un absolu. Mais dans la mesure où justement, une crise économique n'arrive pas, dans la mesure où un gouvernement n'arrive pas à mobiliser tous les citoyens en vue du bien du pays, la crise économique, c'est le bouc émissaire. Et c'est vrai que c'est le bouc émissaire. Pas étonnant que ça, il y a la crise économique. Et on n'en peut rien, elle est internationale. Mais c'est le bouc émissaire. Puis ça continue, on ne sait pas trop comment. Alors, c'est difficile de préciser ce que c'est que la prudence politique. La prudence politique, elle est pour les autres. Elle n'est pas pour moi. Elle est pour les autres. C'est une prudence, donc, qui implique la connaissance du bien commun. Quel bien commun d'un pays comme la France? Hein? Je vous donnerai un quart d'heure à y réfléchir. Et puis celui qui est canadien ferait pour le Canada. Celui qui est ici, il n'y a pas d'Irlandais. Il y en a à Saint-Jonas. Celui qui est irlandais ferait pour là-haut. Celui qui est belge ferait pour la Belgique. Quel est le bien commun d'un pays? Italien, l'Italie. L'espagnol, l'espagnol. Quel est le bien commun? Est-ce qu'il y a une différence entre le bien commun du Sénégal, du Cameroun? Je prends un peu plus loin. De la Chine, du Taïwan. C'est tellement difficile. Bien commun d'un pays. Très très difficile. Or, la prudence politique demande de connaître le bien commun. Ça c'est sûr. Pour faire que ce bien commun demeure un vrai bien commun, permettant à tous les citoyens de pouvoir être éduqués là où ils sont éducables, de pouvoir être mieux instruits là où ils peuvent être mieux instruits, de pouvoir se développer et atterrir et atteindre ce que les Grecs appelaient le zen, le bene vivere, le bien vivre, qui est la béatitude évangélique. Le bien vivre en famille, le bien vivre en politique, ce n'est pas du tout la béatitude évangélique, comprenez bien, je fais allusion à d'autres points de vue. Mais c'est pas le bien vivre en famille, quand même, c'est quand même quelque chose. Le bien vivre avec des camarades et des amis, le bien vivre au niveau politique, avoir un tout petit peu de sécurité, ne pas apprendre qu'à côté il y a quelqu'un qui est assassiné, une vieille grand-mère est assassinée au sixième étage, elle était dans la maison, et elle est assassinée parce qu'il y avait un petit mégot, pas grand-chose, un petit quand même. Très bonne chose, des ressources, quelque chose comme ça. Et puis elle est assassinée, c'est terrible, terrible. Manque de sécurité. Vous voyez ça? Alors, on voit très bien comment le bien commun réclame la sécurité. Alors, c'est toute la question d'un état qui doit être. Parfaitement. Bon. La prudence politique demande de pouvoir faire, si on est responsable, tout ce qu'on peut pour. À ce point de vue-là, il y a très peu de prudence politique. Très peu. Très peu de prudence politique. La prudence politique, elle est du côté de celui qui commande et de celui qui obéit. Vous ne pouvez pas obéir à l'État sans prudence politique. Puisqu'on ne peut pas obéir sans prudence. Donc elle est des deux côtés, passive ou active. Et vous voyez, quand on vit dans un État, il faut bien le dire, dans un État aussi peu politique que le nôtre, je crois que c'est général dans toute l'Europe. La prudence politique ne peut plus s'acquérir. Donc on a une déficience. On ne rencontre plus d'hommes politiques. Vraiment politiques. On rencontre encore des honnêtes, des gens honnêtes. On rencontre encore des gens qui peuvent se développer du côté de l'art et du côté politique. C'est la première chose qu'on doit voir, je crois, que le philosophe doit constater, comme c'est difficile aujourd'hui de faire une vraie politique. Puisque le philosophe part de l'expérience. Je ne pars pas d'un idéal politique. Non, je ne peux pas. Je dois partir de l'exemple. Alors, si on ne fait pas soi-même de la politique, on doit pouvoir parler à des gens politiques, à des hommes qui sont engagés dans la politique, et essayer de comprendre. À Paris, tous les mois, j'ai une petite rencontre avec des gens politiques, pour comprendre, parce que ça m'intéresse. Et je vois que c'est court, c'est très court. Comme c'est difficile de trouver des gens politiques qui ont une taille politique et qui vraiment vous apprennent quelque chose au point de vue de l'homme politique. On a l'impression que c'est quelque chose en plus. J'ai jamais cette impression quand je parle avec des gens, des scientifiques ou des artistes. J'ai l'impression que là, on a un os. On est d'accord ou pas d'accord, vous savez rien. On a un os. Des couples en politique, comme c'est Vassouillard. Oh, c'est effrayant. C'est marécageux. C'est extrêmement curieux, hein, de voir comme c'est difficile aujourd'hui d'avoir, de toucher l'expérience d'un homme politique. Mais on trouvera encore, c'est les dernières affiches que j'ai vues à Paris, dimanche, Chirac, un bon maire. Pour le proclamer sur des affiches. D'affiches énormes. Oui, parce qu'on verra. Mitterrand, génération. Et à la réponse, Chirac, un bon maire. Ben, c'est joli. Mais on se demande s'il faut mettre plus qu'un maire. Alors un métamère, c'est ça que j'avais envie d'écrire. Mettre au-dessus, mais c'est au grade supérieur. Ceci, c'est pour essayer de comprendre l'expérience politique. Alors posons-nous la question encore. Est-ce que la foi informe l'expérience, informe la prudence politique humaine? Pour faire une prudence chrétienne politique. Est-ce que je peux faire ça? Là, je suis devant un problème extrêmement intéressant et difficile à régler. La prudence politique. Il y a une prudence politique, c'est sûr. Est-ce que je peux ajouter prudence politique chrétienne? Ou est-ce que c'est quelque chose d'accidentel? Vous voyez, en bonne logique, on dirait prudence politique, est-ce que supponite chrétien? Est-ce que je peux le faire? Est-ce qu'il y a un lien essentiel entre les deux? Vous voyez, prudence politique socialiste. Prudence politique marxiste. Mais ça pour des approches, pour que nous comprenions mieux le problème. Il faut y réfléchir là-dessus. Parce que si on ne réfléchit pas, on aura un aspect purement passionnel. Parce que vous savez que la politique suscite des passions. Le soir des élections, vous voyez toujours ça. Ça a l'intérêt d'écouter à ce moment-là, pas ici, hein, mais d'écouter à ce moment-là ce qui se passe. Alors on voit les passions des gens. C'est un spectacle passionnel. C'est plus intéressant que n'importe quel autre spectacle. C'est un spectacle passionnel. Si les matchs de foot augmentent les passions, mais là je crois que c'est très enraciné. Plus que le sport. Alors, prudence politique marxiste. Je dis non. La prudence est une vertu. Hein. Et la prudence politique est une vertu. Or, la vertu ne peut pas exister si on n'a pas une vision du bonheur humain. Les vertus sont connexes. Ça, c'est élémentaire au point de vue éthique. Hein. Les vertus sont connexes. Donc, si vous n'avez pas une vision du bonheur de l'homme, et du véritable bonheur, d'un bonheur humain. La vertu n'est pas respectée. Donc vous avez prudence politique qui regarde le point de vue de la vertu politique. Il y a des vertus politiques. Quand elles respectent le bien commun qui me permet d'atteindre le bonheur humain. Un bien commun qui n'est pas pour moi un tremplin en vue du bonheur n'est plus un bien commun. Et ne favorise plus la vertu. Si pour le bien commun, il faut sacrifier le bonheur humain, ce n'est plus un bonheur commun. Ce n'est plus un bien commun humain. Ça, c'est... Ça, je peux le dire tout de suite, hein, indépendamment des réalisations, puisque l'homme existe. Si l'homme existe, évidemment, il y a ça. Le marxisme n'a pas de vision du bonheur humain. Vrai. Donc, je ne peux pas dire prudence politique marxiste. Si, je comprends ce que c'est que le marxisme. Puisque le marxisme n'a pas une vision de l'homme parfait. La finalité de l'homme n'est plus regardée. Donc, il n'y a pas de prudence politique marxiste. Socialiste, ça dépend quel genre de socialisme. C'est évident, il y a un marxisme, il y a un socialisme marxiste, il y a un socialisme mitigé qui peut être lié à une certaine vision chrétienne. C'est sûr, il y a des socialistes chrétiens. Et qui prétendent que c'est la seule possibilité d'avoir une politique chrétienne. C'est sûr. Mais c'est pour ça que c'est très délicat, c'est beaucoup moins. Le marxisme est précis, tandis que le socialisme, c'est très imprécis. S'il y a un socialisme chrétien, alors on tourne la question, prudence politique chrétienne, que j'aime mieux placer indépendamment du socialisme et directement. Mais c'est possible. Pas d'emblée dire le mot socialisme est né du marxisme, donc il est contaminé. Non, il peut évoluer. On le sait. N'est-ce pas? Donc il peut avoir des nuances et des modalités différentes. Le rose. Le rouge peut devenir rose. Et le rose peut devenir blanc. Alors ça fait comme ça des modalités différentes. Vous voyez? Un blanc qui a dans le fond un peu de rosé. Ou un peu de rouge, mais si on le laisse bien déposer. Alors je me pose la question. Y a-t-il une prudence politique chrétienne? Alors, posons-nous la question directe. Est-ce que le point de vue chrétien va modifier le bien commun? Le point de vue chrétien modifie le bonheur humain, ça c'est sûr. Le point de vue chrétien me montre que j'ai un super bonheur. La vision de Dieu face à face par le point de vue du Sauveur, du Christ. Donc, il y a un bonheur nouveau, du bonheur chrétien. Mais est-ce que le bonheur, le bien commun, qui est pour permettre à l'homme de bien vivre sur la terre, bien évident, pas sur le ciel, sur la terre, qui implique donc la vertu morale, la justice. Ça, c'est sûr. C'est sûr que la justice fait partie du bien commun. La justice entre les citoyens, qui fait appel à une efficacité, donc à un art. Qui fait appel à l'économie, qui touche donc le conditionnement humain depuis le point de départ jusqu'au terme, la naissance et la mort. Un bien commun qui ne respecte plus le point de vue de la vie humaine parfaitement et qui, de fait, permettrait l'euthanasie, par exemple. Avec certaines conditions, pour ne pas heurter la mentalité des gens. Est-ce que c'est encore un bien commun? S'il n'y a pas le respect à l'égard de la naissance et à l'égard de la mort. Vous voyez, ça touche tout ça. Mais tout ça n'est pas chrétien, c'est humain, tout simplement. C'est la justice, c'est le respect vis-à-vis de l'homme. Et le respect vis-à-vis de la vie. Je ne crois pas que le bien commun comme tel peut être baptisé. Parce que le conditionnement humain comme tel n'est pas modifié. Mais ce bien commun, dans une perspective chrétienne, je le vois immédiatement ordonné un bonheur humain. Et qu'il se peut très bien, alors là on touche quelque chose de très particulier, il se peut très bien, en tant que théologien, que le péché originel, s'il n'est pas vu dans une perspective de foi, va contaminer tout le temps le bien commun. Et donc, condition sine qua non pour que le bien commun humain soit vraiment vu dans toute sa lumière, comme ordonné au bonheur, il se peut très bien que c'est nécessaire qu'il y ait la foi. Ça. Mais ceci, c'est une condition. Ça ne veut pas dire que la foi modifie le bien commun. Non. Mais la foi me permet d'avoir une vision nette et précise sur le bien commun. Mais c'est deux choses différentes. La foi ne me donne pas un nouveau bien commun. Mais la foi peut me permettre de voir jusqu'où peut aller le bien commun. Et me donner une vision beaucoup plus claire du bien commun. C'est du côté de l'exercice, la condition sine qua non. C'est pas du côté de la spécification. Il se peut, étant donné ce qu'est l'homme, étant donné ce que représentent les conséquences du péché originel, que l'homme, s'il n'a pas la grâce, ne peut pas avoir une politique vraiment humaine. Comme condition sine qua non. Ce que je croirais assez volontiers. Mais que la foi ne modifie pas le bien commun humain. Donc, ne modifie pas immédiatement le bien commun. Et ne modifie pas la justice politique, communautaire. Le travail n'est pas changé par la foi. L'économie n'est pas changée par la foi. La justice sociale de l'Église, parce qu'il faut aller jusque-là, et ça fait partie du bien commun. La justice sociale de l'Église, est-ce qu'elle donne une vision nouvelle sur le bien commun? Ou est-ce que la justice sociale, c'est tout simplement une vision très nette de la justice humaine telle qu'elle devrait être, telle qu'elle doit être. Ce que je croirais assez volontiers. Très difficile, hein, au plan philosophique, de voir exactement ce que c'est que la justice sociale. On en parle beaucoup, mais on ne sait pas très bien. Philosophiquement parlant, vous voyez. J'ai posé la question, parce que je l'ai beaucoup travaillé personnellement, ça, en travaillant l'éthique. Au point de vue philosophique, hein, vous avez, là je touche le nœud, au point de vue politique, au point de vue philosophique, vous avez la justice commutative, vous avez la justice distributive. Vous avez la justice légale. Est-ce que vous devez ajouter une quatrième justice? La justice qui correspond à la justice sociale chrétienne. C'est très très délicat. C'est important à voir. Parce qu'autrement, on répète des mots. Le mot justice sociale, vous savez à quel moment c'est arrivé? L'Église a péché. C'est avec Rosmini. C'est Rosmini le premier qui a employé le mot justice sociale. Et l'Église a pris cela dans toutes les encycliques. Justice sociale. C'est intéressant de voir d'où ça vient. Et on la trouve pas avant. On la trouve pas avant, c'est Rosmini. Et c'est très très difficile à préciser. Hein. Donc mettez, si vous voulez, justice sociale. Moi je veux bien. Mais c'est tout à fait différent de ça. Tout à fait différent. Ça, c'est une structure philosophique de la justice. La justice par elle-même, la justice humaine par elle-même, qui regarde le droit de l'autre, implique cette structure. C'est pour ça qu'il faut la connaître. Si on veut faire de l'éthique et qu'on veut regarder ce que c'est que la vertu de justice, il faut nécessairement bien comprendre ces aspects élémentaires de la justice. Tandis que la justice sociale, ce n'est plus une structure de justice, c'est une application. C'est l'exercice prudentiel de la justice. Et je dis bien l'exercice prudentiel, où on rappelle qu'il y a des quantités d'éléments qui sont impliqués dans l'application de la justice. C'est pour ça qu'on dit justice sociale, c'est un engagement particulier. Et que c'est vrai que ce problème s'est soulevé à partir de la charité, à partir de l'agapé, qui informe les vertus. En informant la justice chrétienne est informée par la charité. La justice chrétienne informée par la charité pose un nouveau problème. Justice sociale. Parce que je dois faire attention à tout l'ensemble. C'est pour ça que c'est si difficile à préciser. Et je crois que, philosophiquement, en éthique chrétienne, je dis qu'il y a un problème, la justice sociale. C'est l'éthique chrétienne. À partir de la charité. Vous voyez ? Je ne peux pas avoir ce problème-là. Essayez vous-même de le voir. Hein. Parce que c'est quand même, il faut comprendre un peu ce que c'est que la justice sociale, telle que les saints-pères l'ont enseignée, toutes les encycliques sur la justice sociale. Et on doit, si on est un peu philosophe et un peu théologien, ne pas apporter ça comme la tarte à la crème. Pour des quantités de choses, c'est la tarte à la crème, la justice sociale. J'ajoute ça comme ça, la justice sociale de l'Église, mais quand on sert un peu le problème, où est-ce que ça se situe ? Situe commutative, distributive, légale. C'est les trois qui sont engagés dedans. Et au fond, ça ne peut se comprendre, d'abord, c'est avant tout pour les chrétiens, mais c'est pas seulement pour les chrétiens. L'Église veut que la justice sociale soit pour tous. Mais c'est sûr que c'est la charité qui a posé le problème. Comme toujours, c'est normal. Et après, on dit que c'est une justice qui doit tenir compte de la personne humaine engagée dans le travail. Ce qu'on fait difficile, c'est ça. C'est la personne humaine engagée dans le travail. Si vous avez affaire à un père de famille qui a 5 enfants, vous ne pouvez pas le traiter de la même façon qu'un célibataire. Justice sociale. Et donc, c'est le passage à la personne humaine. Et vous devez regarder dans le travail la personne humaine engagée. Et non pas seulement ce qu'il fait. Oui, un contrat de travail ne regarde que l'efficacité. Vous arrivez, grâce à votre habileté, à faire 2 fois plus de travail qu'un autre, qui est très très lent. Et celui qui est très très lent est père de famille. Alors, est-ce que vous ne devez regarder que l'efficacité ? Non, pas le droit. Vous devez regarder la personne humaine engagée dans le travail. Toute l'encyclique du pape sur le travail. Qui donne le fondement de ce que c'est que la justice sociale. Et qui montre que capitaliste et marxiste pêchent de la même manière. Parce qu'ils ne regardent que l'efficacité. La praxis ou le contrat de travail. Et on oublie de regarder l'homme. Donc il y a la même faute des deux côtés. Et que la justice sociale rappelle qu'on doit regarder l'homme travailleur, l'homme engagé dans le travail. Oui. Et ça, la justice sociale, on comprendrait bien que la charité, tout de suite, regardez ça. Parce que je n'ai pas le droit de m'abstraire du prochain et de ne regarder que le point de vue de l'efficacité du travail. Alors, je reviens à la prudence politique. La prudence politique doit regarder le bien commun. Et dans le bien commun, il y a la justice. Pas de bien commun sans justice. Et on dira tout de suite, sans justice sociale. C'est très juste. Mais dire que je ne dois pas engager l'homme dans le travail sans regarder la personne humaine, c'est purement philosophique. C'est le travail de l'homme que je regarde. Que l'homme l'ait oublié, ça ne veut pas dire que la philosophie l'a oublié. Et que ce soit la charité qui m'a éveillé devant ça, c'est très vrai. C'est pas à cause de ça que la justice sociale est transformée par la foi. Non. La justice sociale est humaine. Et donc, le bien commun n'est pas changé par la foi, par une vision de foi. Réfléchissez à ça, hein. Parce que ça vaut la peine. Autrement, on tombera dans des visions. L'ontologisme de Rosmini. Faut pas l'oublier. C'est pour ça que quand l'Église prend le terme justice sociale, je ne regarde pas ce que Rosmini a dit. Bien que ce soit, je crois, Rosmini qui a mis l'éveil. C'est intéressant, tu vois ça. C'est des problèmes historiques. Je prends la justice sociale telle qu'elle est dans les encycliques. Et c'est le rappel de la personne au travail, la personne humaine. Donc, faire qu'on n'a pas le droit de dire ce travailleur a quatre enfants, je m'en fiche. Ça veut dire, ce que je regarde, c'est le rendement. On n'a pas le droit de faire ça. Comme on n'a pas le droit de dire, je vais prendre des gens qui sont dans une situation difficile, passagers, j'aurais pas le droit, j'aurais pas besoin d'augmenter leur paie. Je les prends le temps où ils peuvent être dans ce pays-là. 3 mois. Après, il sera un autre. Oui, j'utilise des situations difficiles pour payer moins. Donc je ne regarde pas l'homme. Là, il y a des fautes de justice. Mais c'est pas encore une fois la foi qui transforme. Ce n'est pas la foi qui transforme le bien commun. Alors réfléchissez là-dessus. Si vous voyez que la foi transforme le bien commun, vous mettrez une petite note. Ça m'intéressera. Parce que vous voyez, tout est là. Si la foi transforme le bien commun, il y a donc une prudence politique chrétienne. Si la foi ne transforme pas le bien commun, il n'y a pas de prudence politique chrétienne. Elle peut modifier, c'est normal, mon application, me rendre plus zélé. Mais est-ce qu'elle spécifie? Distinguons bien l'ordre de l'exercice et l'ordre de la spécification. Ce que Rosmini ne fait pas assez, entre parenthèses. Tout ontologisme. Vous voyez, la foi avec la charité me rend plus attentif. C'est sûr. Si je suis chrétien, je suis plus attentif à mon devoir d'État. Normalement. Mais ça, c'est rendre plus attentif du côté de l'exercice. Ça ne regarde rien du côté de la spécification. Donc, vous voyez, là, je touche le point délicat. Et je vois, exprès, hein, je reste devant les deux solutions pour que vous puissiez réfléchir. Parce que si je vous donne la solution, Très bien. Non, non, non. C'est trop délicat. Et c'est tellement important pour nous. Parce que de là, vous voyez, va tout de suite y avoir, doit-on avoir un parti politique chrétien? Question qui se pose, elle m'a été posée encore hier, dans ce petit groupe. Peut-on dire qu'il faut, devant la détresse devant laquelle on est, faut-il qu'en France, les jeunes disent il faut un parti politique chrétien. Il soit ni de droite, ni de gauche, il est chrétien. Ce serait très commode. Ou faut-il tout simplement dire la foi doit me montrer mon urgence politique, ce que le Saint-Père a rappelé à Strasbourg. Mon urgence politique. Je n'ai pas le droit de me désintéresser du point de vue politique, sauf si je suis religieux. Privilège du religieux. Mais il doit penser plus que les autres pour aider les autres. Il ne s'engage pas nécessairement. Vous voyez ça ? Je vous donnais l'ordre de vous engager tous. Au point de vue des élections municipales, ce serait du propre. Notre vieux maire, qu'est-ce qu'il deviendrait ? Parce qu'on mettrait, on présenterait ici, vous voyez, le père Polycarpe, prieur du couvent, qui rassemble plus de voix, du moins une grosse partie de voix, et on le dirait, présentez-vous comme maire, pour sauver le pays, quoi. Et le prieur général lui donnera un ordre de se présenter comme maire. Ah non, c'est en dehors des constitutions. Donc, vous pouvez rien. Ou alors, ce sera encore mieux, du côté des sœurs. Ah, ça serait beaucoup plus de succès. On est beaucoup plus de succès. On va présenter sœur Geneviève comme devant se présenter